dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.ruf@ofbmedia.de. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Richard Carapaz a remporté la 18e étape du Tour de France. Les favoris du classement général restent prudents lors de la première des 3 étapes alpines. Il n'y a aucun changement. Nous passons en direct en France, au pied de la montagne, comme il vient de me le dire, avec le manager de l'équipe Red Bull, Bora Hansgrohe. Bonjour à Ralf Denk.
Salut et bonne soirée. Retour à Rosenheim.
Exactement. Commençons par le vainqueur. Carapaz a tenté sa chance à plusieurs reprises durant ce tour. Aujourd'hui, ça a payé. Une belle performance d'équipe, un finish solide de sa part. Dans l'ensemble, c'est une victoire très méritée, je trouve. Qu'en dis-tu ?
Ah, absolument. C'est mérité pour l'équipe, mais aussi pour Richard lui-même, parce que j'ai souvent dit dans ce podcast, les équipes qui ne jouent pas le classement général ou le podium court de manière très passive, à mon avis. Là, je dois faire une exception pour EF aujourd'hui, car ils ont couru de manière très, très agressive. Cette victoire d'étape a été presque forcée, obtenue au forceps, et ils étaient constamment présents dans les groupes, ont attaqué tôt, ont rattrapé des coureurs, et Richard a donc définitivement mérité sa victoire. Mais il était aussi parmi le groupe de tête, les gars qui restaient, ceux qui ont abordé l'ascension finale ensemble, le meilleur, un vainqueur mérité et un super coureur.
Je ne peux qu'être d'accord. Belle performance aussi de Mats Pedersen et de la petite équipe Trek. Le Danois remporte le sprint intermédiaire et prend une option décisive pour le maillot vert. Voilà, le devoir de chronique est accompli. Passons à vous. Quelle est l'ambiance au pied de la montagne ?
L'ambiance est bonne car nous avons fait une très belle course. Nous avons ensuite imposé le rythme dans la montée finale, d'abord avec Maxime Van Gils, puis avec Jai Hindley. Le rythme imposé par Jai Hindley était rapide car nous n'étions plus très nombreux. Il restait peut-être 10 ou 12 coureurs, mais ce n'était pas un rythme suffisant pour creuser des écarts. La montée finale n'était pas assez difficile pour cela. On ne peut pas comparer ça avec la montée finale de demain, l'Alpe d'Huez, qui est bien plus longue, bien plus dure, donc plus raide. Et aujourd'hui, c'était plutôt ce qu'on appelle dans le jargon cycliste une montée pour rouleurs. On ne pouvait pas faire de différence, mais on a quand même pu fatiguer un peu les protagonistes qui se battent ici pour le podium. Et c'était aussi en partie notre stratégie, car nous étions encore représentés avec un effectif relativement important.
Et la stratégie a parfaitement fonctionné, si je comprends bien.
Oui, comme je l'ai dit, nous sommes contents de cette journée. Remco s'est bien senti toute la journée et cela nous convient parfaitement.
Exactement, et on a vu Jan Tratnik devant un court instant. Il a un peu participé quand les groupes étaient encore en phase de formation. C'était encore, comme ce que tu disais hier sur Jai Hindley, c'était encore celui qu'on envoie un peu en éclaireur pour assurer une certaine sécurité en termes de contrôle. Quelle était l'idée derrière ça ou est-ce que ça s'est simplement fait au fil de la course ?
Non, c'est vrai, je l'ai déjà dit hier. Quand un groupe aussi important et par moments, ils étaient 30, plus de 30 coureurs en tête devant le peloton, alors il faut être présent. On ne peut pas juste rester dans le peloton. C'est pour ça que Jan Tratnik était devant. Mais on a bien vu qu'il y avait presque 3 courses en une aujourd'hui. La lutte pour le maillot vert, la bataille pour l'étape et les coureurs qui visent le podium. Et c'est pour ça qu'on a économisé nos forces. Jan a tout donné. Il est revenu dans le peloton.
Exact. On discute et on spécule beaucoup sur l'équipe UAE. Certaines choses ne nécessitent pas de spéculation. Elles sont visibles. Adam Yates, hier, Brandon McNulty a dû abandonner le Tour de France. Wellens et Vermeersch ont aussi des problèmes. Un virus semble circuler. Qu'avez-vous appris ? Qu'est-ce qui vous revient ?
Oui, il y a un virus gastro-intestinal qui circule. S'il s'agit seulement de ce virus ou de quelque chose de plus, on ne sait pas. Les équipes restent très discrètes à ce sujet, mais Mauro Gianetti, mon collègue de UAE Emirates, l'a confirmé hier en interview. Et c'est évidemment dur quand on est aussi affaibli pour aborder la finale du Tour de France. Et on l'a vu hier, Adam Yates a souffert comme un chien tout seul avant de recevoir l'aide de Tim Wellens. Mais c'est vraiment très, très dur et j'ai un immense respect pour les coureurs qui se traînent jusqu'au bout des étapes. Quand tu es malade, que tu ne peux rien garder, que tu as peut-être de la fièvre, il faut vraiment une grande force de caractère, respect pour ces coureurs.
Qu'est-ce que cela signifie pour Pogacar et Del Toro? Félix Groschartner semble en forme. C'est aussi un homme pour la montagne. Nils Polite est, je crois, indestructible. Lui aussi dit qu'il se sent bien. Est-ce suffisant? Est-ce un gros désavantage? Écoutez, nous avons deux étapes de montagne très difficiles, puis Paris et c'est fini. Est-ce que c'est encore un si gros désavantage à ce stade?
J'ai aussi dit à plusieurs reprises ces derniers jours que nous ne sommes pas ceux qui doivent durcir la course et attaquer, car reprendre 4 minutes à Pogacar sur le dernier week-end, je pense que c'est utopique. Même s'il est très malade, à ce jour, nous sommes relativement en sécurité sur le podium. Voilà. J'ai été un peu surpris aujourd'hui que l'équipe Décathlon pour Paul Sechter soit restée relativement défensive. J'aurais pensé qu'il y aurait un vrai feu d'artifice aujourd'hui, mais eux aussi sont restés en retrait parce qu'ils ne sont pas sur le podium actuellement et peut-être qu'ils ont aussi gardé des forces pour demain ou peut-être qu'ils ne pouvaient tout simplement pas. Oui, mais là, j'attendais en fait, dans une certaine mesure, une vague d'attaque plus importante.
Quelles mesures prend-on en équipe quand une telle situation survient?
Oui, on sépare les coureurs. C'est déjà devenu la norme dans la plupart des équipes ici. Les chambres doubles traditionnelles n'existent plus. Les coureurs ont des chambres individuelles. C'est déjà une bonne chose pour éviter de se contaminer mutuellement quand ce genre de situation arrive. Mais si tu as un coureur malade ou à moitié malade, alors tu ne le laisses pas manger avec le groupe. Alors tu ne le laisses pas non plus voyager en bus jusqu'au départ ou pour revenir à l'hôtel. Il est dans une voiture avec juste un chauffeur, mais l'isoler du reste de ses coéquipiers, c'est vraiment la mesure la plus importante.
Bien, avant d'aborder les histoires de l'Alpe d'Huez qui nous attendent vendredi et samedi, profitons du temps dont nous disposons. Aujourd'hui, je crois que c'est une bonne occasion, peut-être la dernière, pour l'un de nos sujets de fond. Parlons aujourd'hui de la sécurité. J'ai également reçu des questions d'auditeurs à ce sujet. Niklas Heiberger veut savoir pourquoi, dans les descentes à haut risque de chute, on n'installe pas de barrières ou de coussins gonflables comme on en voit sur les circuits de sport automobile.
Oui, c'est un sujet global. Il existe déjà des efforts et des initiatives dans le cyclisme professionnel pour le rendre plus sûr. Un groupe de travail a d'ailleurs été formé. Ce groupe de travail s'appelle SAFER. On y trouve des représentants des coureurs, des équipes, de l'Union cycliste internationale et des organisateurs de courses. Et les quatre parties souhaitent avant tout rendre le cyclisme plus sûr. Mais chacune des quatre parties a évidemment ses propres intérêts, ce qui rend la chose très, très difficile. Par exemple, mieux sécuriser les parcours avec des barrières, des protections et ainsi de suite. C'est évidemment un défi immense quand on parcourt 200 km d'un point A à un point B. Les organisateurs de courses soutiennent que le cyclisme, c'est l'histoire. Sur le Tour de France, il faut aller d'un point A à un point B chaque jour. Si l'on veut plus de sécurité sur des circuits, c'est évidemment beaucoup plus simple. Car si je parcours 200 km d'un point A à un point B, je dois sécuriser 200 km. Ce qui est impossible, car on peut se demander où commencer et où s'arrêter. Si tu roules plutôt sur des circuits, disons des circuits de 10-15 km, alors on peut évidemment faire beaucoup plus car je n'ai qu'à sécuriser 15 km. Est-ce le charme du Tour de France de rouler davantage sur des circuits? Je ne sais pas, les belles images télévisées sont plutôt créées quand on roule longtemps d'un point A à un point B et quand on a aussi des prises de vue à droite et à gauche du parcours. Donc ce sont de très nombreuses discussions. Mais revenons maintenant à la question de l'auditeur. C'est un choix délibéré car sur 200 km, on ne peut tout simplement pas sécuriser le parcours comme en sport automobile ou au ski. La Streife, par exemple, à Kitzbühel, une course de ski très connue, cela fait 6, 8, 9 km de long. On peut très bien sécuriser ça, mais sécuriser 200 km, c'est extrêmement difficile.
Alors, abordons le problème sous un autre angle. Christophe Heisser m'a envoyé un long message. Il vient lui-même du milieu de l'entraînement fonctionnel et du parcours et il explique qu'en BMX, VTT ou skateboard, apprendre à tomber, à rouler et à absorber les chocs de manière contrôlée est une pratique tout à fait courante. Résumons cela par l'entraînement à la chute. Cela existe-t-il dans le cyclisme sur route?
Non. Ce qui existe, c'est que des équipes s'offrent des entraîneurs de descente. Ça existe avec des coureurs qui ont peut-être un peu besoin, c'est-à-dire ceux qui ont peur ou ceux qui ne sont peut-être pas techniquement aussi au point. Là, on peut entraîner ça dans une certaine mesure. Mais tu ne feras jamais d'un mauvais descendeur un bon descendeur juste en l'entraînant. Il n'existe pas d'entraînement à la chute en soi, car pour tout ce qui est descente, technique ou justement entraînement à la chute, le temps est très, très limité. Nous avons 10 mois de saison, énormément de stages. Nous avons déjà parlé du temps que les gars passent loin de chez eux, puis le calendrier des courses sur 10 mois et ainsi de suite. Tout cela est très, très, très limité. Mais une bonne formation de base, surtout chez les jeunes, aide. C'est pourquoi notre approche de recrutement est désormais très avancée. Ou très large, pour que nous scoutions aussi en VTT, en cyclocross et sur route, car c'est là qu'on apprend des compétences comme Peter Sagan ou Mathieu Van Der Poel. Je ne peux parler que de Peter Sagan. Il a longtemps été dans notre équipe. Il tombait rarement, car c'était un véritable artiste du guidon.
D'accord. Cela signifie qu'au lieu de faire cet entraînement, on trouve des solutions avant. C'est en fait un début intelligent.
Oui, donc comme je l'ai dit, si les gars, au lieu de rouler 3 heures sur la route par 0 degré, bien emmitouflés, il vaut bien mieux qu'ils aillent en forêt. On y apprend tellement mieux à piloter et cela fait aussi partie de notre stratégie, de notre entraînement. Mais aussi que nous surveillons de très près les catégories de jeunes, surtout en VTT et en cyclocross, car ces compétences aident toujours. Et on le voit maintenant avec Paul Seixas, qui vient aussi du cyclocross, quel talent de pilotage il possède.
Absolument. Anne, le sujet de l'équipement des coureurs fait aussi l'objet de discussions récurrentes. Y a-t-il du nouveau? Comment l'équipement pourrait-il améliorer la sécurité?
Oui, la sécurité serait principalement améliorée en réduisant la vitesse. Oui, cela signifie que tout l'équipement, des pneus aux jantes, en passant par l'aérodynamisme des roues, des guidons, des casques et des vêtements, tout cela va vraiment très vite. Et cela, un cycliste amateur qui pratique depuis longtemps, peut-être 20 ou 30 ans, le remarque aussi. Avant, on faisait peut-être du 27 de moyenne à l'entraînement et aujourd'hui, du 30 est presque devenu la norme pour un amateur bien entraîné. Mais cela est aussi dû au fait que l'équipement que l'on peut acheter aujourd'hui est bien plus rapide que le vélo de course d'il y a 20 ou 30 ans. Et cette vitesse n'apporte pas toujours de la sécurité dans le cyclisme ou dans le cyclisme professionnel. Et on pourrait réduire la sécurité et on pourrait l'augmenter en réduisant la vitesse. Mais là encore, j'ai un conflit d'intérêts, car les fabricants investissent en nous, car ils veulent toujours rendre les vélos plus rapides. Si nous utilisions des vélos standards, plus lents, donc moins aérodynamiques, si nous repassions à plus de rayons, à des pneus plus lents, alors l'industrie n'investirait plus dans le cyclisme professionnel car c'est la plateforme qui permet de rendre leurs produits plus rapides et meilleurs. C'est donc encore un conflit d'intérêts. Et ça, on peut en discuter très, très longtemps. Et au sein du comité ou du groupe de travail Safer Air, il y a beaucoup, beaucoup de discussions fructueuses. Mais la solution idéale, nous ne l'avons pas encore trouvée dans ce groupe de travail.
Et nous ne le retrouverons pas aujourd'hui à propos de Roy. L'étape Rennes samedi, mais ça bouge déjà demain. Départ à 14h. Arrivée prévue vers 17h15. On part de Gap pour l'Alpe d'Huez. 128 km au programme. Nous commençons par une ascension de deuxième catégorie, puis nous passons à la première catégorie où la pente s'accentue, suivie d'une montée de deuxième catégorie avant de grimper vers l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez est aussi au programme samedi, mais toutes les ascensions de l'Alpe d'Huez ne se ressemblent pas. Demain, c'est la montée classique, le grand mythe de l'Alpe d'Huez. Elle sera gravie demain. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il y a quelqu'un qui n'a pas encore gagné à l'Alpe d'Huez. Il s'appelle Tadej Pogacar. Et pour ceux qui suivent la carrière de Tadej Pogacar, Paris-Roubaix nous rappelle quelque chose. Il veut inscrire son nom sur ses listes. On peut donc supposer que s'il est en bonne santé, il donnera tout demain pour conquérir ce mythe de l'Alpe d'Huez. C'est mon avis. Quel est le tien?
Ouais, c'est vraiment un mythe. Pour ceux qui ne sont jamais allés à l'Alpe d'Huez, c'est une station créée de toutes pièces à 1800 et quelques mètres. La route de montagne qui monte là-haut fait 15 kilomètres de long et en moyenne environ 9 à 10 %. Elle est relativement large, la route qui monte là-haut. Et on l'appelle aussi la montagne des Hollandais. Apparemment, beaucoup de Hollandais y ont gagné par le passé et le record est toujours détenu par Marco Pantani depuis les années 90 avec un bon 36 minutes. Et les spéculations vont bon train. Est-ce que Pogacar peut battre le record demain ou ne pas le battre? Je m'attends demain, car c'est une montagne si prestigieuse, à une lutte acharnée pour le podium. Elle sera définitivement ouverte demain après l'Alpe d'Huez. La montagne est fermée depuis 2 jours. Elle est donc assiégée, dans le bon sens du terme, par les spectateurs. Ils campent là-bas, ils font des barbecues et se prépare pour la journée de demain. C'est un décor grandiose, un immense stade à ciel ouvert demain et la météo semble être au beau fixe. Ce sera une grande fête du vélo demain et je pense qu'au pied de la montée, les derniers échappés auront été rattrapés. Et ce sera une course entre les favoris pour le record, pour cette victoire prestigieuse et pour le podium du Tour de France.
Donc votre stratégie, protéger Remco, le placer, et ensuite il devra probablement se débrouiller seul pour monter l'Alpe d'Huez.
Exactement. Nous allons bien sûr essayer avec Jai Hindley et Maxim van Gils de rester le plus longtemps possible avec Remco, mais au final, chaque leader se retrouvera seul. Nous comptons sur une bonne forme de Remco et de toute l'équipe.
Bien, un auditeur, Marcus Hall, m'a contacté aujourd'hui. Il est allé près de Grenoble, à l'Alpe d'Huez. Ses vélos de course et ceux d'autres personnes ont été volés pendant la nuit. Je sais que beaucoup de gens sur place nous écoutent. Ralph, à tous ceux qui sont là-bas, surveillez bien votre matériel. Et Marcus, bon courage à toi. Alors demain, mon collègue Corbinian Sauter prendra le relais pour la première partie de l'Alpe d'Huez. Je serai de retour samedi pour la deuxième partie de l'Alpe d'Huez. Ralph, bonne chance pour demain. Merci beaucoup pour aujourd'hui et salutations depuis la France.
Merci, avec plaisir et salut à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et d'IPEN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.